Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Nous continuons notre série « Quoi de neuf sur Napoléon ?» avec aujourd'hui les questions militaires après les maréchaux. Nous allons parler des simples soldats. Nous sommes en compagnie de Michel Roucault, docteur en histoire. Vous travaillez au service historique de la défense comme chargé d'études documentaires principale, et vous avez constaté que des gisements d'archives ont suscité l'intérêt des chercheurs, alors que pour certains, ils étaient laissés de côté depuis longtemps. Peut-être que nous pourrions commencer par parler des correspondances des simples soldats qui ont intéressé les historiens. Qu'est-ce qu'ils ont permis d'apprendre sur cette armée et sur ces hommes?
Alors, en effet, en fait, bonjour à tous. Les correspondances de soldats ont été redécouvertes lors des bicentenaires et du renouvellement historiographique, qui s'inscrit aussi dans ce renouvellement de l'anthropologie historique et la vie du soldat. Et même si quelques lettres de soldats avaient été publiées au début du XXe siècle, c'est véritablement dans les années 2000 qu'on les a redécouverts. Et on voit aussi à ce niveau la vie et le quotidien de ces soldats. D'ailleurs, le service historique a mené une politique d'acquisition de lettres depuis les années 2000-2010 pour enrichir nos collections. Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, contrairement à l'idée admise, on pensait que c'était le poilu qui avait écrit, mais dès la Révolution et l'Empire, se développe un système postal aux armées assez bien développé, et les soldats de la Grande Armée, plus de 2 millions d'hommes, parmi dans leur rang, beaucoup savent écrire. Donc, ces lettres sont aujourd'hui des nouveaux gisements pour connaître la vie quotidienne du soldat, son appréhension, son combat, l'éloignement, l'autre, connaître l'autre, les autres pays, la découverte de régions d'Europe inconnues comme la Pologne, l'Allemagne. Voilà, donc c'est véritablement un nouveau gisement pour les historiens qu'ils ont redécouvert et qu'ils ont re-questionné et qui a permis d'enrichir notre connaissance de la Grande Armée.
Il faut dire qu'aujourd'hui, la guerre est de plus en plus appréhendée par aussi un prisme anthropologique. Qu'est-ce que cela signifie?
Eh bien, ça signifie que suite aux travaux, bien entendu, des annales en leur temps, et il y a eu deux voies pour appréhender la guerre, celle des grands hommes, avec les grandes biographies comme celle de Jean Tullard et les grands commandements, et celle aussi d'appréhender la guerre au niveau, à l'échelle humaine, dans le combat. Alors au départ, c'était l'anthropologie dans la lignée d'un militaire qui était aussi historien, Ardan Dupic. C'était pour pouvoir permettre d'améliorer le soldat face à la peur du combat, ce qu'a appelé Clausewitz dans ses écrits la force morale du combattant. Mais on a aussi pu approcher la guerre dans sa globalité, non seulement les peurs, mais aussi l'acceptation de la conscription, l'acceptation de la guerre, et puis voir aussi... par exemple, dans certaines lettres, on peut voir aussi que dès le Premier Empire, l'armée est vue comme un ascenseur social par certains soldats et certains conscrits qui savent écrire, qui veulent des postes de fourrier, caporal, adjudant, et qui deviendront à la fin du Premier Empire, qui deviendront officiers, sous-lieutenants et lieutenants. Voilà. Donc il y a aussi cette idée d'ascenseur social.
Alors, les affaires militaires intéressent aussi pour des questions stratégiques, et le rôle du renseignement en particulier a été remis en valeur. Il avait une grande importance à l'époque de Napoléon.
Alors, en effet, ça s'inscrit aussi dans le renouvellement historiographique de la connaissance de la Grande Armée. Et de par mon métier, puisque j'ai fait une thèse sur le renseignement dans la Grande Armée et dans les armées napoléoniennes, de par mon métier, j'ai pu appréhender les archives militaires qui ont fait florès, et on s'est aperçu que les états-majors qui étaient sous l'ancien régime, qui n'étaient pas permanents, étaient quasi permanents sous l'Empire, dû bien entendu aux campagnes, et qu'elles ont produit des documents militaires de renseignement qui venaient de deux traditions, la tradition des armes savantes, les officiers du génie, les ingénieurs géographes, qui faisaient des reconnaissances cartographiques ou des mémoires cartographiques pour connaître le pays dans lequel on allait faire la guerre. Et puis, vous aviez aussi la tradition plus, plus dirons-nous aujourd'hui, d'intelligence humaine, ou c'était une reconnaissance d'avant-garde, où les cavaliers légers et l'infanterie légère parfois allaient reconnaître des points et parfois allaient même interroger des habitants sur la position de l'ennemi ou des armées ennemies qu'ils avaient pu voir ou ne pas voir.
Donc avec Napoléon, le renseignement était une arme à la fois intérieure et extérieure.
Alors effectivement, on s'est aperçu aussi avec d'autres gisements tels que les rapports du ministre de la guerre au premier consul, avant les bulletins de police créés, enfin vraiment qui apparaissent en 1804, dès 1800, Napoléon s'appuie sur le réseau militaire territorial pour avoir des renseignements chaque semaine, voire chaque jour, de l'esprit public, à travers ces généraux de division qui eux-mêmes étaient alimentés par les commandants de place, la gendarmerie et aussi les commandants d'unité qui traversaient le territoire. Alors bien sûr, on s'intéressait à la police militaire, à l'état d'esprit de la troupe, mais on s'intéressait aussi à l'état d'esprit des populations. Et un mot apparaît souvent sous cette période consulaire, le brigand, qui revêt plusieurs significations. C'est à la fois le brigand de grand chemin, mais c'est aussi celui qui alimente ses peurs et ses guerres civiles, puisqu'on le sait, quand Bonaparte prend le pouvoir, la France est fracturée entre royalistes, ultra-royalistes et jacobins, les néo-jacobins.
Et un dernier point qui fait partie des nouveautés de ce renouvellement historique, c'est le fait qu'on a compris l'importance des fortifications dans la pensée militaire de Napoléon. Et ça, c'était finalement assez peu connu et peut-être même surprenant dans nos esprits.
Alors, c'était effectivement assez peu connu, bien qu'il y a eu des travaux d'un général un peu précurseur de la pensée napoléonienne autour de 1900, le général Camon, qui a lui bien vu cette dimension, mais on le redécouvre, et d'ailleurs ça devrait donner l'objet d'études et peut-être d'expositions dans les mois à venir. On redécouvre l'apport de la fortification dans la pensée napoléonienne, parce que pour projeter des forces sur 1500 km, il faut aussi des lignes d'opération. Il faut des lignes qui sont tenues avec des points où on a des dépôts, des points d'approvisionnement. Et donc, la fortification est essentielle dans ce développement et cette stratégie militaire. Et de plus, lorsqu'en plus on veut imposer un empire à des frontières pour tenir à la fois les royaumes satellites et être prêt à toute éventualité d'une reprise de la guerre face à un pays au départ allié, comme ce fut le cas en 1809 avec l'Autriche, eh bien, il faut aussi des places qui puissent être des places de défense et de contrôle de territoire. Enfin, pour appliquer le décret de Berlin de 1806, Napoléon a besoin de tenir les côtes et il faudra aussi mettre des fortifications sur toutes les côtes françaises et d'Europe du Nord, avec des tours modèles standardisées ou des places comme l'île de Walcheren ou Osterrande. Voilà. Donc il y a dans la conception napoléonienne, la part de la fortification et des officiers du génie est tout à fait importante, tant dans sa stratégie, dans sa politique.
Eh bien, un grand merci Michel Roucault pour toutes ces explications. Je rappelle que vous travaillez au service historique de la Défense. À bientôt.
À bientôt.